qui vient du titre d'un film, et j'ai vérifié, il est sorti en 2007. C'est quand même du 21e siècle. Et avec Vincent Cassel, Viggo Mortensen. Alors, je ne vais pas raconter le film, parce que sinon, Yvonne, la susnommée Yvonne, va me faire des grands signes. Non, 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 ne raconte pas les films. Il est un chouïa violent, c'est vrai. Mais c'est un bon titre. Les promesses de l'ombre. Ces promesses qui ne tiennent pas leurs promesses. Ces promesses qui nous laissent sur le carreau de la vie. Ces promesses qui nous laissent dans l'ombre. Et on avait parlé en janvier 2023, ça date un petit peu, de cette première promesse de l'ombre, le mirage de l'amour érotico-romantique, avec comme tête de file Édith Piaf, qui a chanté l'hymne à l'amour, qui était folle amoureuse, et qui l'était trop, et qui a terminé un peu seul. Et puis, on a parlé dimanche dernier du mensonge de l'argent, l'argent qui nous promet le bonheur, mais qui nous laisse insatisfaits, et qui ne peut aller au-delà des apparences, avec Zachée, le personnage biblique, pour en parler. Et aujourd'hui, le prix du succès. Le succès a un coût. Le succès coûte. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais quand même préciser que je ne suis pas en train de dire que tout est mauvais. Que tout est mauvais dans ce monde, que tout est mauvais dans l'amour, ou que tout est mauvais dans l'argent ou dans le succès. L'amour est quelque chose de très beau, créé par Dieu. L'argent est très utile et on en a besoin. Le succès n'est pas en soi quelque chose qu'il faudrait éviter à tout prix. Il faut, dans la vie, quelques succès quand même. Mais le problème vient quand on fait de ces choses des objectifs premiers dans notre vie, une sorte d'absolu, pour employer un terme un tantinet philosophique, quelque chose qui prend tout, qui domine tout, en qui on met toute sa confiance, en qui on met toute son espérance, en qui on met toute sa foi. Et j'emploie le mot foi qui, lui aussi, est un tantinet religieux, un sens religieux, pour bien montrer le défi, l'enjeu de ce que l'on pourrait appeler des idoles. La Bible parle des idoles comme étant des idoles de néant, des idoles de vent, des idoles de l'ombre, de faux dieux, de dieux de contrefaçon, comme le dit le pasteur qui est parti à présent rejoindre la maison du Père, Timothée Keller, dont je m'inspire. Alors, pour parler de ce prix du succès, je vous parle de Sidney Pollack, ce réalisateur qui a réalisé plusieurs films, Out of Africa, Tootsie et Jeremiah Johnson, le meilleur film, enfin qui est dans le top 10 Un trappeur, Robert Redford en plus, dans la neige tout le temps, moi j'aime la neige et tout le film est dans la neige, avec des Indiens, bref. Super film, Sidney Pollack. Mais voilà ce qu'il dit Sidney Pollack. Si j'arrête le cinéma, alors le journaliste lui demandait pourquoi il prenait pas un peu de repos alors qu'il a le succès, pourquoi il se repose pas un peu, pourquoi il se sent obligé de faire des nouvelles films. Il a déjà tout réussi, tout fait. Bah. Et ben Sidney Pollack répond si j'arrête le cinéma, je ne peux plus justifier mon existence. Et il poursuit, à chaque fois que je termine un film, j'ai le sentiment d'avoir accompli quelque chose que j'étais supposé accomplir et que j'ai donc le droit de vivre encore une année de plus. C'est fou ça. Presque choquante cette phrase, mais elle montre bien, elle aussi, combien le succès compte dans la vie, en tout cas de Sidney Pollack. Le succès dans le domaine qu'il s'est choisi lui donne le droit de vivre à Sidney Pollack. Alors, ce sont des stars, enfin, c'est une star, j'avais aussi des citations de Madonna, etc., des gens avec de gros succès, et on peut comprendre que pour eux, le succès pourrait leur monter à la tête et devenir un absolu, mais à notre niveau. Hein, on n'est pas tous des stars, quelques-uns parmi vous peut-être, mais le problème est sensiblement différent. Nos petits succès, quand on en a, serviraient juste à nous redonner confiance en nous-mêmes, et c'est une bonne chose, n'est-ce pas ? Et il est bon de réussir allez, son bac, quand même, ses études, son permis de conduire ou son tiramisu. Hein, c'est bien de pouvoir le réussir. On n'est pas dans le star system et nous sommes à l'abri de pas mal de choses quand même, mais il nous faut savoir que nous sommes quand même dans une culture du succès et qui nous influence, qu'on le veuille ou non. Et si on remplace le mot succès par accomplissement personnel, peut-être que nous nous sentirons plus concernés. On est là, aujourd'hui, dans une culture de l'accomplissement personnel. Il faut s'accomplir. Une psychologue spécialiste des jeunes cadres dynamiques parlait de l'accomplissement personnel comme d'un alcool que l'on consomme sans modération, une addiction. On a, et je cite, hein, on a un projet à réaliser, on le fait et on réussit. On est félicité par ses collègues, peut-être même le patron, et on adore le sentiment qui accompagne le succès, le fait d'être reconnu, d'être valorisé, et on déteste le retour à la normale. Alors, on part sur un autre projet, et ainsi de suite. Mais cela devient de plus en plus difficile de retrouver l'euphorie des premiers succès. Plus en plus dur. Et puis un jour, on se prend une claque. On n'a pas le succès. Et là, on est complètement, c'est la catastrophe, on tombe dans le désespoir parce qu'on a mis en jeu toute notre estime de soi sur cet accomplissement personnel. Et peu à peu, on la perd et on ne sait plus où on en est. L'accomplissement personnel comme une addiction. Certains très accros, d'autres moins, mais tous nous sommes influencés par cette culture du succès ou de l'accomplissement personnel à travers des succès. Alors, pourquoi la recherche du succès ou, autrement dit, de l'accomplissement personnel? Ben, tout simplement parce que le succès nous donne l'impression d'exister. Vous avez noté dans la phrase de Sidney Pollack, le cinéma justifie mon existence. Le cinéma, le succès dans un domaine quelconque, mais là le cinéma pour lui, donne une justification à sa vie, à son existence. Et la justification de l'existence, c'est une autre façon de parler du sens de la vie, mais en plus fort. Si je n'ai pas de justification pour vivre ici, alors je n'ai rien à faire ici. Et on a tous besoin de justifier sa vie ou d'une raison de vivre. Et pour certains, pour beaucoup, le succès dans le domaine choisi apporte cette justification. Un autre exemple encore du siècle passé, je pourrais vous parler de certaines stars d'aujourd'hui, mais vous vous souvenez de Chris Evert Lloyd, je pense même à l'époque, qui a le record de succès en sport individuel. C'est Chris Evert. Qui était toujours toute pimpante, qui venait sur les cours, un peu, qui faisait le contraste avec, comment elle s'appelait, Navratilova, vous vous souvenez? Bon, dans les années 80. Et à l'aube de sa retraite sportive, elle était terrifiée. Je n'avais aucune idée de qui j'étais et qui je pouvais être en dehors du tennis. Toute ma vie tournait autour de mes victoires au tennis. J'avais besoin de mes victoires, des applaudissements du public, pour maintenir mon identité. Incroyable. Pour Chris Evert Lloyd, ce sont ses victoires au tennis qui lui permettaient d'exister et qui justifiaient son existence. Mais le problème avec les victoires au tennis, c'est que ça ne dure pas. Quand sonne l'heure de la retraite, qu'est-ce qu'on fait pour justifier sa vie? Sa retraite sportive ou sa retraite professionnelle aussi? Le succès, c'est une promesse de l'ombre. Et puis, on pourrait parler des impressions, c'était le titre, hein, les impressions qu'il donne, le succès, il donne aussi une impression de toute puissance. J'ai du succès, donc je peux tout. Je suis omnipotent. Une impression de sécurité. Je ne crains rien. Je suis à l'abri de toutes les souffrances, de tous les maux qui peuvent tomber sur les individus lambda. Moi, j'ai du succès. Et puis, il y a le sentiment d'invincibilité. Je ne crains rien. Et pire, Et vous allez reconnaître l'image. Sentiment d'impunité. Un journaliste écrivait, une journaliste écrivait, et c'est magnifique comme citation, « De toutes les choses qui nous obsèdent, le succès est celle qui nous ment le plus, qui nous ment le plus. Quand le succès et son cousin l'argent nous disent qu'ils vont nous donner la sécurité, quand le succès et son cousin le pouvoir nous disent qu'ils vont nous rendre importants, quand le succès et sa cousine la gloire nous disent qu'ils vont nous rendre heureux, il est temps de dire la vérité, c'est un mensonge. » Et notre société vit sur ce mensonge et elle vit mal. Pas moi qui le dis, c'est cette journaliste qui n'est pas chrétienne, enfin je ne sais pas, mais pas spécialement en tout cas. Alors, quand on entend cela, on est en droit de se demander si effectivement on n'est pas avec le succès en présence d'une idole, d'un faux dieu, de quelque chose de factice, de contrefait. À l'époque en Belgique, je ne sais pas s'ils le disent encore, les jeunes disaient « c'est du fake », en prenant une expression américaine, « fake », c'est faux, c'est du contrefait. Et c'est dangereux parce que les impressions que le succès donne font bonne impression, a priori, mais à la longue, elles finissent par se fissurer et à montrer des failles énormes. Alors, il y a une histoire dans la Bible, on y arrive, à la Bible, qui vient magnifiquement illustrer cela. Elle date un peu, elle aussi, c'est dans l'Ancien Testament, ça se passe à l'époque du prophète Élisée qui a succédé à Élie, mais avec un E, pas le Élie de Samuel. Mais elle reste d'actualité. On la trouve dans le deuxième livre des Rois, on nous parle d'un « dead man walking », un homme mort qui marche. On pourrait dire, comme on dit pour les condamnés à mort, qui marche dans le couloir, justement, de la mort. Et où c'est l'histoire de Naaman, dans 2 Rois 5, au verset 1. On nous parle, c'était un grand homme. Il était généralissime des armées du roi de Syrie, un Ish Gadol, en hébreu, Ish, homme, Gadol, grand. Il était grand de réputation, un homme de valeur qui avait la faveur du roi de Syrie parce que c'est grâce à lui que la Syrie avait eu des victoires militaires, des victoires ou des succès. Un homme à succès que ce Naaman. Mais il y a un mais cet homme était lépreux. Et le narrateur nous le dit dès le premier verset. Mais il était lépreux. Il avait un succès énorme dans toutes ses entreprises, mais il était lépreux. Et tous les succès qu'il pouvait avoir dans la société syrienne ne changeaient rien au mal qui le rongeait à l'intérieur et qui se voyait progressivement à l'extérieur. La lèpre est à l'époque tout à fait incurable et insoignable. Le type de maladie qui amène d'abord vers l'isolement, ensuite vers la mort. Pour l'instant, Naaman est encore bien à l'extérieur, mais c'est une question de temps. Il est déjà hors course. Il était grand, Naaman, Ish Gadol, mais il était lépreux. Et c'est en quelque sorte la faille dans sa vie, la grande faille, son épée de Damoclès, suspendue au-dessus de lui, de sa vie. Mais, il y a encore un mais dans l'histoire, il y a dans sa maisonnée une petite servante, une esclave, qui vient d'Israël, que les Syriens ont capturé lors d'une razzia dans le pays ennemi. Elle doit avoir 12 ou 13 ans. Elle est au service de la femme de Naaman. Et elle va dire, je connais à la femme de Naaman, je connais quelqu'un en Samarie qui pourrait guérir mon maître de sa maladie. Je connais quelqu'un qui pourrait le sauver, dit cette petite fille de 12, 13 ans. Et contre toute attente, la femme de Naaman en parle à son mari. Et contre toute attente, Naaman en parle au roi de Syrie, son patron, son chef. Et contre toute attente, le roi de Syrie lui permet de partir en Israël, en Samarie. Il donne son accord, et même plus, pour que son homme de valeur voyage vers la Samarie. C'est dire que tout le monde veut que Naaman continue de vivre sa vie de grand homme. On tient à lui et au succès qu'il apporte dans sa vie, mais dans la vie des autres aussi. C'est le succès ça marche par ruissellement aussi, c'est un terme courant aujourd'hui. Et l'histoire de Naaman est intéressante parce qu'elle nous permet de voir comment un homme habitué au succès, peut-être même enfermé dans la culture du succès, va s'en sortir et ne pas rester piégé dans son propre succès. Ça va être difficile pour Naaman parce qu'il est dans la culture lui aussi du succès et ça va lui demander de reconsidérer pas mal de choses. Et d'abord, ça va lui demander de changer de regard sur la vie. Il est général en chef de l'armée, un proche du pouvoir. Et il va partir en guérison, comme il va partir en mission. Il va partir avec 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Dans le monde diplomatique, c'est important d'avoir des vêtements de rechange. Tu ne te présentes pas avec les mêmes fringues devant les diplomates. Et pourquoi il prend ces habits ? Parce que au lieu d'aller voir le prophète en Samarie, comme avait dit la petite fille, il va voir le roi d'Israël. Mais c'est normal, entre grands, entre successful personnes, on se parle. Et il va directement là-bas. Et le roi d'Israël va se déclarer complètement incompétent en la matière. Et il déchire son vêtement, comme c'est la bonne mode à l'époque, pour exprimer sa tristesse. Et il voit dans cette tentative de Naaman comme une tentative pour créer un problème diplomatique. Et puis il va répondre, et ça c'est très intéressant, « Est-ce que je suis Dieu, moi ?» Le roi d'Israël, dit à Naaman, qui demande la guérison. « Est-ce que je suis Dieu, moi ?» dit le roi d'Israël. « Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de la lèpre ?» Et ce roi d'Israël a en fait une réaction très saine en disant « Est-ce que je suis Dieu, moi, pour guérir quelqu'un de la lèpre ?» Et il pointe du doigt le problème de Naaman qui pense qu'avec quelques kilos d'or, des vêtements de rechange, il peut acheter un sens à sa vie. Naaman a fait du pouvoir ou du succès une sorte de Dieu qui pourrait le sortir de son problème, mais Naaman se trompe de porte. Et Naaman cherche un Dieu avec lequel il pourrait composer, un Dieu même qu'il pourrait acheter, le Dieu que l'on pourrait mériter, le Dieu prévisible, mais Dieu n'est pas un Dieu prévisible. Le Dieu d'Israël, le Dieu de la révélation biblique n'est pas un Dieu prévisible. Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un Dieu prévisible. Il est le Dieu de la grâce. Et il faut que Naaman change sa vision des choses, qu'il ait un autre regard. Et cela me fait penser à Jésus, qui s'adresse à tous les Naaman du monde, hier et aujourd'hui, et qui viennent avec les signes de leur réussite et de leur succès, qui leur donnent le sentiment d'exister, et qui va dire à un homme, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd sa vie, sa psyché, son âme, dans le texte grec original. Et il ajoute, et qui peut la lui racheter? Qui peut racheter sa vie? Qui peut justifier sa vie? À quoi sert-il à un homme d'avoir tous les succès possibles, dit Jésus, parole de Dieu, s'il perd sa vie, s'il perd son âme? Et s'il la perd, qui pourra la lui racheter? Deuxièmement, dans l'histoire, Naaman n'est pas au bout de ses peines. Élisée, par l'intermédiaire d'un serviteur, le fait venir jusqu'à chez lui quand même. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Mais Élisée ne vient pas. C'est un serviteur encore un, qui vient lui dire de la part du prophète, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. » C'est les serviteurs qui parlent. C'est intéressant, la servante en Syrie, dans la maison de Naaman, qui parle, le serviteur d'Élisée qui parle à Naaman, les serviteurs de Naaman qui parlent aussi, on le verra tout à l'heure. Mais Naaman pète un câble. Et il va dire, Et deux fois dans le texte, Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant « Je pensais que cet homme viendra en personne vers moi. Les fleuves de Damas ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ?» Que le Jourdain, entre parenthèses. Il fit donc demi-tour et partit furieux. Deux fois, il est furieux, il pète un câble parce que ça correspond pas à sa vision des choses. C'est quoi cette histoire? On me prend pour qui ici? Je suis Naaman, un homme important, un Ish Gadol, et qui a du succès dans la vie. Je suis traité comme un demeuré ici, le prophète qui ne sort même pas me voir, et c'est un serviteur minable qui me demande de me baigner dans cette petite rivière minable, alors que j'en ai en Syrie tout ce qu'il me faut pour me baigner tranquille. Pète un câble. Il y a deux mondes qui s'opposent. Et il est prêt à faire demi-tour, il est furieux parce que tout son monde est chamboulé, toute sa vision du monde est remise en question, et il apprend deux choses, Naaman. D'abord, que Dieu n'est pas un phénomène de société que l'on peut contrôler, mais qu'il est un Dieu libre et souverain. Et il apprend aussi que quand Dieu entre en relation avec les êtres humains, il opère sur le principe de la grâce et non sur le principe du mérite, malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui, la méritocratie, et ni sur le principe du succès. Alors il est prêt à faire demi-tour, mais il y a encore cette fois des serviteurs, ses propres serviteurs, qui vont lui dire « S'il t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? À combien plus forte raison s'il te demande juste de te laver dans ce fleuve ?» Voilà de la sagesse. Ça vient des serviteurs. Beaucoup de choses viennent des serviteurs dans ce récit, des gens humbles. Et il faut parfois marcher avec les gens humbles, écouter les gens humbles. Et il va écouter ses serviteurs, Naaman, comme il a écouté celui d'Élisée, comme il a écouté la petite servante de sa femme, et ce contact répété avec les plus humbles que lui, cette écoute de gens sans valeur, cette écoute des petites gens, va le mener vers le Jourdain, et il va s'y baigner cette fois, et il va être guéri de sa lèpre. Il va être sauvé de son mal qui allait le séparer de la vie. Et il ressort de l'eau avec une peau de bébé, changée à l'intérieur, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, comme dans le film de Oh Brother, avec le magnifique George Clooney et ses deux acolytes beaucoup moins beaux que lui. Et l'un se fait baptiser dans le Mississippi et déclare avec un sourire en banane, « I'm saved !» Et Naaman sort des eaux du Jourdain, « I'm saved !» Je suis guéri à l'extérieur, mais certainement à l'intérieur. Son regard sur la vie, sur Dieu, a changé. Un grand moment de cinéma pour Oh Brother, un grand moment pour Naaman qui sort de l'eau, il est sauvé lui aussi de la lèpre, mais aussi du faux dieu de l'accomplissement personnel. Et il faut mettre l'accent sur le rôle qu'ont eu les serviteurs, et en particulier la première, la petite servante, qui dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète en Samarie. » Une petite fille de 12-13 ans que les Syriens ont kidnappé quand ils ont fait une razzia. Les parents, certainement, ont été tués dans l'histoire, ou pris en esclave, ou tués sous ses yeux. Une petite fille dont la vie est ruinée et qui n'a aucun avenir. Et quand on réfléchit un peu, on se dit que c'est Naaman, le chef de l'armée, qui est responsable de sa situation, à la petite fille. Et moi, si j'avais été cette petite fille, j'aurais peut-être cherché à prendre plutôt ma revanche sur cet homme qui avait ruiné ma vie. Et j'aurais pu dire, et elle aurait pu, elle aurait pu ne rien dire et le laisser, ce général en chef Naaman, mourir morceau par morceau. Tiens, encore un doigt de partir aujourd'hui. Lui faire payer à petit feu ses crimes, elle aurait pu lui dire « J'irai danser sur ta tombe ». Mais elle dit « Je connais quelqu'un qui peut te guérir ». Parce qu'on ne sait pas pourquoi cette petite fille de 12-13 ans est pleine de compassion pour son maître, pour le général en chef qui a peut-être tué ses parents. Elle est prête à absorber en quelque sorte la dette qu'il a envers elle. Elle devient pour lui un agent de guérison, on pourrait dire même un agent de rédemption. Et la Bible nous parle d'un autre serviteur. Ceux qui suivent Aventure Formation se souviennent d'Ésaïe, hein, les chants du serviteur, qui lui aussi absorbe la dette d'autres. Et quand Ésaïe écrit 6 siècles avant Jésus-Christ, avant la naissance de Jésus, il y a des chapitres qui s'intitulent « Les chants du serviteur » et en particulier le chapitre 53. « Nous le méprisons, nous l'avons méprisé et pourtant c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris, sauvés, justifiés. Notre existence est justifiée. » En lui. Et Philippiens 2, la lettre de Paul aux Philippiens dans le Nouveau Testament, cette fois, il a pris sur lui la condition de serviteur et il est devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Mais cette croix dynamique, comme nous l'avons ici, qui nous mène vers quelque chose de nouveau et de complètement renouvelé, c'est la même chose. Car ce que Jésus a fait à la croix, c'est ce que la petite servante a fait à Naaman. Il a absorbé notre dette par amour, par compassion pour nous. Pour nous, des hommes et des femmes qui s'agitent pour avoir du succès, mais qui portent en eux un problème qui les ronge à l'intérieur, le problème du sens de l'existence. Alors, je l'avais déjà dit pour l'argent, mais il faut le redire pour le succès et l'idole du succès. On ne combat pas une addiction, on la remplace. Soit on la remplace par une autre addiction, ce qui n'est pas souhaitable. Mais on la remplace en écoutant la voix du serviteur Jésus. D'accepter que l'on ne peut pas faire de grandes choses pour justifier sa vie. On doit accepter de se laver dans le Jourdain, nous aussi, c'est-à-dire que notre guérison intérieure vient de Dieu et de lui seul et que notre existence trouve sa justification en lui. Nous n'avons pas besoin de nous accomplir nous-mêmes en volant de succès en succès à tout prix. Il a tout accompli sur la croix, il le dit, tout est accompli. Quand nous comprenons cela, alors l'idole du succès lâche prise. La culture du succès lâche prise sur notre existence. Il a tout accompli. Je ne dois pas voler de succès en succès à tout prix. Et j'ajouterai encore une petite chose, il lâche complètement, ou elle lâche cette idole du succès, quand nous écoutons la voix du serviteur qui nous dit « Ouais, ça c'est toujours la voix du serviteur qui guérit Naaman là par grâce, de passer en mode service. C'est Jésus encore, le serviteur souffrant, qui nous dit si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Il n'y a rien de mieux pour couper l'addiction du succès que de passer en mode service, de voir sa vie comme un grand service à rendre à Dieu, aux autres, au monde. De voir aussi ses succès comme des bénédictions de Dieu et des occasions de mettre ses compétences au service des autres, au service de l'amour, au service du monde. Quand on écoute la voix du serviteur et qu'on passe au mode service, on a quasiment gagné la bataille contre ce Dieu de contrefaçon qui est le succès. Il y a sœur Teresa qui disait cette phrase merveilleuse, « Je ne suis pas appelé à avoir du succès, mais à être fidèle. » Fidèle dans son service. Je termine, comme dimanche dernier, par une citation de Timothée Keller. « Vers qui puis-je me tourner, qui soit suffisamment beau, grand et élevé, pour me permettre d'abandonner tous ces faux dieux et leurs promesses de l'ombre, le mirage de l'amour, le mensonge de l'argent, le prix du succès. Quelque chose de beau, quelque chose d'élevé, quelque chose qui nous transcende, qui est plus grand que nous. Le vrai Dieu. » Et je vous invite à chanter avec moi le chant qui s'intitule « Majesté ». Quelque chose de grand, quelque chose d'élevé, quelque chose de majestueux qui donne sens à l'existence.